Dans notre quête perpétuelle en tant qu'humain pour avoir une place, pour être reconnu pour ce qu'on apporte et la valeur qu'on a, pour créer des liens d'amour et de confiance avec notre entourage qui vont nous donner ce sentiment d'être en sécurité et de compter. Il y a un ennemi, un méchant, la cruella de notre aspiration humaine à appartenir. Son petit nom, c'est la honte. Vous savez la reconnaître? Parlons-en. Et parce que la honte en nous mérite d'être vaincue pour que nos besoins humains gagnent, on a voulu y consacrer 3 épisodes. Voici la première partie de ce triptyque. Bonjour, nous sommes Aimé et Adrien. Bienvenue dans Je vais mieux.
Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humain. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit. Alors moi, j'ai toujours été habituée dans ma scolarité à être une bonne élève. J'avais des bonnes notes, j'étais quasiment toujours parmi les premiers de la classe. Ma vie familiale était un peu chaotique, donc ma façon à moi d'avoir une sphère de réussite et de contrôle, c'était d'être bonne en classe. Sauf que l'arrivée en seconde a été un peu difficile, notamment en maths. Et puis, il y a tous les enjeux de se resocialiser dans un très gros lycée, avec plein de personnes que je ne connais pas. Et puis, je fais partie de nouveau des petits, des jeunots. Tout ça, c'est pas simple. Et puis bon, on a 15 ans, on se sent pas forcément très bien dans sa peau, on est en train de devenir une femme, tout ça, c'est compliqué. Premier conseil de classe, il y avait un gros enjeu sur est-ce que je vais réussir à garder mon statut de bonne élève, est-ce que les profs vont me saquer, ou au contraire, est-ce qu'ils vont comprendre que je me donne à fond. Et en même temps, toujours pareil, à la fois je veux qu'ils comprennent que je me donne à fond, et à la fois je veux pas avoir l'air d'en faire trop non plus, ou d'essayer trop fort. Après le conseil de classe, je sens qu'il y a quelque chose qui plane. Je vois les délégués de classe qui me regardent bizarrement, je devine presque un petit sourire en coin. Je sens qu'il s'est passé quelque chose que j'ignore et qu'il y a un secret dont je suis exclue. Et puis là, un indice tombe. Demande à ta mère. Je me souviens encore du moment où j'ai entendu ça, la façon dont tout s'est effondré à l'intérieur de moi, j'étais sidérée, terrifiée. En me disant, mais attends, non seulement il s'est passé quelque chose, mais en plus, ça vient de ma mère, qui était déléguée de parents d'élèves, celle qui était supposée être de mon côté, et celle à propos de laquelle je me faisais pas de soucis. J'avais très peur des profs, j'avais très peur du directeur, mais j'imaginais pas que le problème allait venir de ma mère pendant le conseil de classe. Donc, je prends mon courage à deux mains et je commence à mener ma petite enquête. Donc, d'abord, ma mère. Maman ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le conseil de classe ? Oh, mais rien, ma chérie, j'ai juste dit que tu aimais beaucoup l'école, que tu étais très investie, que tu te donnais vraiment à fond et que tu méritais d'être encouragée. Gloops. Alors d'abord, je vais pas à l'école, mais au lycée, merci beaucoup, je ne suis plus un bébé. Et puis, aimer l'école, c'est pas quelque chose qui te donne beaucoup de crédit auprès des autres élèves, c'est même plutôt la meilleure façon d'être étiqueté un télo de service, lèche-botte, en gros, celle qui essaye trop, et qui finit par être détestée de tout le monde. Et ça m'était déjà malheureusement arrivé trop souvent dans ma scolarité, de bon élève, comme vous pouvez l'imaginer. Donc maintenant, les autres savent quelque chose sur moi, que j'aurais préféré garder secret, les profs, mais surtout les délégués de classe, autrement dit, toute ma classe, si ce n'est tout le lycée. Oui, on est un peu mégalo quand on est ado et on croit facilement que notre réalité intéresse tout le monde. Mais je me souviens que je sens que c'est pas tout. Je sens que ma mère m'a pas dit toute la vérité, rien que la vérité, et qu'elle a pas juste dit ça pour que les délégués se comportent comme ça. Alors, deuxième partie de l'enquête, les délégués de classe. Bon allez les gars, dites-moi franchement, elle a juste dit ça ? La réponse qui tombe, oui, elle a juste dit ça. Le seul truc, c'est qu'elle l'a dit en pleurant. Et là, c'est l'apothéose de mon sentiment de honte. Ma mère s'est mise à pleurer devant tout le monde. Les profs, le directeur, la CPE, mes camarades, en disant que j'adorais l'école. Alors aujourd'hui, en tant qu'adulte, je vois bien sûr à quel point ça partait d'un endroit d'amour et de tendresse en elle, qu'elle voulait vraiment mon bien, qu'elle était émue parce qu'elle était fière de moi, mais aussi parce que ça avait une importance capitale pour elle, que les profs comprennent qui je suis, que je sois pas saquée, elle voulait vraiment que j'aie un bon départ, et ça, dans un cœur de maman, c'est très puissant. Mais moi, depuis mon endroit d'ado, mal dans sa peau, en difficulté de socialisation depuis des années, qui avait vraiment besoin d'un nouveau départ et qui espérait pouvoir faire de cette page blanche ma chance de, enfin, pour une fois, me sentir correspondre et appartenir, c'était signer mon arrêt de mort sociale. Et ça, ça n'a pu faire naître chez moi que le sentiment d'avoir été exposé, dévoilé dans mon intimité, d'avoir été, bien sûr, ridiculisé et de vouloir disparaître à jamais parce que de toute façon tout était foutu.
Alors vous l'aurez compris, ce qui fait que une scène comme ça peut avoir une telle intensité émotionnelle chez une adolescente, c'est précisément parce que le lien est la raison pour laquelle on est sur Terre. C'est ce qui donne du sens à notre vie en fait, c'est le sujet de tout. C'est ça qui est le plus important. Et en fait, la capacité à entrer en relation, c'est précisément ce pourquoi on a été biologiquement fabriqué. On est biologiquement et neurologiquement câblé pour ça. C'est-à-dire que le lien, c'est notre fonction de base, c'est notre fonction de départ. C'est ça qui a le plus de sens et le plus d'importance dans notre vie.
Et comme malheureusement chaque chose n'existe que parce que son contraire existe, on ne peut pas parler de lien sans parler de ce qui crée les sentiments d'isolement, de ce qui crée la peur d'être rejeté, de ce qui crée la peur de ne pas être à la hauteur, d'être exclu, de ne pas avoir de valeur. Et ces sentiments-là, c'est la honte.
Alors la honte, c'est quelque chose de très particulier, de très spécifique. C'est la peur de perdre le lien, mais de perdre le lien pour ce que je suis. Pas pour ce que je fais, pour la nature de qui je suis. Et ça, ça induit l'idée selon laquelle je ne serai pas comme il faut être, ou alors je ne suis pas assez bien. Mais en tout cas, je suis d'une certaine manière inadapté. La question que la honte fait naître en nous, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui, s'il est découvert, alors je serai en risque de perdre le lien, alors je serai en risque de perdre le droit d'appartenir au groupe social.
Donc la honte, en fait, c'est une question de qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite par ce que je suis naturellement, sans avoir rien besoin de faire. Est-ce que je suis digne, effectivement, d'aimer, d'appartenir? Et du coup, c'est le sentiment douloureux de mon infériorité, le sentiment d'humiliation et la peur de perdre l'estime de l'autre, d'être rabaissé dans son opinion, d'être dévalorisé à ses yeux. Et ça, malheureusement, cette émotion, elle est tellement forte, ce sentiment, émotion, on dit ce qu'on veut un peu, le sujet, c'est pas de faire une différence là-dessus, mais c'est tellement fort qu'en fait, ça peut vraiment enfermer complètement la personne dans des nœuds d'angoisse perpétuelle quand on sort le matin, quand on va oser dire quoi que ce soit, même chaque geste, chaque choix, chaque décision, chaque opportunité de rencontrer une nouvelle personne ou de sortir même avec nos amis qui nous connaissent bien, chaque parfois réunion familiale peut réveiller ces nœuds d'angoisse. De est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais correspondre, est-ce que je vais être assez bien. Et ça, ça finit vraiment par, en fait, définir toute notre vie et presque qui on est, parce que ça décide pour nous de comment on se comporte. Et cette peur, elle est tellement puissante, parce qu'elle touche quelque chose de tellement essentiel, que ça peut vraiment dicter tout notre comportement. Et un des meilleurs exemples de ça, encore une fois, c'est vraiment l'adolescent qui va agir, se comporter, faire des choix pour correspondre, pour surtout ne pas être humilié ou ridiculisé dans le regard des autres, pour pas perdre l'estime que les autres pourraient avoir de lui, etc. Cet enjeu-là, il est très très fort à l'adolescence, mais en fait, il continue de se jouer après toute notre vie. Et c'est quelque chose qui est tellement intense que ça peut même amener à l'exclusion, voire à l'auto-exclusion du groupe social. C'est-à-dire que si j'ai dans l'idée qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui risquerait de me ridiculiser ou qui risquerait de ne pas être assez bien ou que les autres ne vont pas pouvoir m'accepter avec ça, je peux avoir cette malheureuse tendance à me mettre en retrait, à ne pas aller dans la relation, à éviter le lien, à éviter le rapport à l'autre. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup d'adolescents qui vivent ça. Et c'est une grosse part des suicides qu'on retrouve chez l'adolescent. C'est vraiment ce retrait, cette auto-exclusion du groupe social, parce que ce sentiment que je ne suis pas digne, que je ne vaux pas, qu'il y a quelque chose qui cloche en moi, il est tellement puissant qu'il peut vraiment devenir le dictateur de notre vie.
Il est puissant et en plus de ça, il est universellement répandu. Mmh. Et par son intensité, en fait, il peut nous enfermer dans ce qu'on appelle des nœuds d'angoisse, c'est-à-dire des points de cristallisation qui nous paralysent. Vous savez, c'est ces expressions populaires qu'on entend parfois et qu'on a tous dit, chacun à notre manière. C'est « il s'est passé quelque chose et tout à coup, je ne savais plus où me mettre. Mmh. » J'aurais voulu disparaître ou j'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. Je me suis senti tellement mal d'avoir dit ça ou d'avoir fait ça, si seulement j'avais pu ne pas le dire. C'est une émotion qui est extrêmement puissante à l'intérieur de nous et qui nous amène à la conclusion que je ne pourrais plus jamais me montrer aux yeux de cette personne. C'est comme si cette chose que j'avais faite, elle avait une conséquence qui était éternelle. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai perdu ma valeur aux yeux de cette personne et il faudrait que je disparaisse à tout jamais. Il y a une intensité émotionnelle dans ce genre de moment qui est disproportionnée par rapport à ce qui s'est, entre guillemets, réellement passé. Et ça nous amène, encore une fois, à penser que on est trop comme ci, ou on n'est pas assez comme ça, ou on n'est pas en adéquation, ou que qui on est n'est pas assez bien. On en arrive à cette conclusion-là. Et ça peut faire effet boule de neige. Et du coup, une petite scène, un petit moment de rien du tout, fait un effet de cascade à l'intérieur de nous. Et on en arrive à la conclusion qu'en fait, c'est toute notre vie qui est comme ça. Mmh. Vous voyez ce moment où tout à coup, vous avez fait quelque chose, vous avez honte de vous, vous vous trouvez ridicule par rapport à ça. Et en fait, ça vous fait rentrer dans un état émotionnel tellement intense que tout à coup, vous avez l'impression qu'en fait, vous êtes une merde et qu'en fait, vous êtes capable de rien et qu'il n'y a rien qui est possible et que ça ne sera jamais possible et qu'il y a une dimension éternelle à ça aussi. Et ça prend une disproportion totale par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et ça a un effet paralysant qui nous dévalorise d'une manière extrêmement puissante. C'est comme si on était tombé dans un trou et qu'on ne pouvait plus jamais en ressortir.
Alors effectivement, c'est probablement l'émotion qui a le plus de puissance. Je me souviens dans mes études de psycho, j'ai fait mon mémoire sur la honte, et je me souviens de cette psychologue que j'avais interviewée par rapport au psychotrauma, en l'occurrence, c'était ça qui m'intéressait. Et elle me disait, le psychotrauma, on sait le prendre en charge sur quasiment tous ses aspects, on sait comment prendre en charge le stress post-traumatique, les flashbacks, les cauchemars, la tristesse, le deuil, tout ça on sait comment l'accompagner, mais il y a un truc qui bloque le système systématiquement, il y a un obstacle qu'on n'arrive pas à dépasser, qui fait que les gens peuvent rester dans le silence pendant des décennies, qui fait que les familles se séparent, se divisent après que quelque chose soit arrivé, qui est aussi ce qui fait les secrets de famille qui se transmettent de génération en génération et qui déforment des gens, qui déforment des vies parce que ça vient distordre le langage, les comportements et surtout les liens. Et cette chose, cet obstacle, ce grand méchant, comme on disait au début, c'est la honte. Et elle me disait, c'est le truc, on ne sait pas comment faire en fait, on ne sait pas par quelle boue l'aborder, parce que c'est quelque chose qui est tellement enfermant et qui fait tellement croire à la personne que non seulement personne ne pourra l'accepter avec ça à l'intérieur d'elle. Elle est sûre à 100% qu'elle ne pourra pas être acceptée, qu'elle sera forcément rejetée, exclue, jugée, etc. Et du coup, elle s'enferme elle-même dans une bulle où elle devient complètement inaccessible et elle est tellement sûre que personne ne pourra l'aider à en sortir, voire même qu'elle ne mérite pas d'en sortir, puisque elle est cette chose qui n'a pas de valeur, que du coup, ça bloque le processus de résilience comme rien d'autre, en fait. Alors après, ce qui est important, là on dépeint un portrait très très sombre de la honte, bien sûr, mais c'est important à ce moment-là de dire que la honte, c'est pas que le psychotrauma ou l'adolescent qui est mal dans sa peau, en fait, tout le monde ressent de la honte. Les seules personnes qui ne sont pas capables de ressentir de la honte, pas capables ou en tout cas qui ne la ressentent pas, c'est des personnes qui sont pas capables d'être en lien, en fait, qui sont pas capables d'empathie, qui sont pas capables de lien affectif. C'est les psychopathes et les sociopathes. Ce qui veut dire que ressentir de la honte, c'est non seulement pas un défaut de fabrication ou quelque chose qui prouve bien qu'il y a un problème à l'intérieur de moi puisque j'en ai honte, au contraire, c'est quelque chose qui nous rend humains et on le ressent tous et on a tous des moments où on le ressent et c'est même quelque chose qui nous aide à nous inscrire dans une société qui a des règles, qui a des codes, dans ce qu'on appelle une communauté symbolique, c'est-à-dire une communauté de gens qui sont d'accord sur des symboles, sur des valeurs, sur des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Et quand on s'inscrit dans cette communauté symbolique, du coup, il y a forcément le fait qu'il y a des choses qui peuvent nous en exclure. Et la honte, c'est ce sentiment qui fait qu'on a peur d'être exclu parce qu'on n'a pas respecté, quelque part, la communauté symbolique. Donc, elle est le versant obscur de, en fait, quelque chose de lumineux et de surtout non négociable pour l'être humain, qui est d'appartenir. C'est ça, c'est vital, c'est pas négociable. Donc, avoir de la honte, c'est le signe qu'on est humain et qu'a priori, on est humain en bonne santé, c'est-à-dire ni psychopathe ni sociopathe, ce qui est quand même plutôt la bonne nouvelle du jour, parce qu'on est capable de sentir qu'il y a une limite et que cette limite, elle a été franchie. Et ça, c'est plutôt un signe de bonne santé mentale. Maintenant, cela étant dit, il faut aussi dire que même si tout le monde ressent de la honte, personne ne veut en parler. Parce qu'en fait, on a même honte d'avoir honte, et on a honte du parler du fait qu'on a honte. Pareil, je me souviens, pendant mon mémoire de psycho, je fais une recherche de la littérature et il n'y avait pas beaucoup de livres écrits sur la honte, qui déjà auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Mais j'en trouve un, psychanalyse, bien comme il faut, il fallait faire le truc académique pour que ce soit validé, etc., etc. Et puis je commence à lire l'introduction et je comprends rien, mais rien. Toutes les quatre lignes, je me dis, mais c'est pas possible, je suis complètement perdue, je suis débile, enfin, je suis même pas capable de lire les psychanalystes, il y a un truc qui, pour le coup, qui tente pas rond chez moi, donc je rentre dans le truc. Et en même temps, je me dis, mais c'est quand même bizarre, parce que j'en ai lu d'autres, des psychanalystes. J'ai lu Freud, j'ai lu Lacan, enfin, j'en ai lu des grands qui sont assez imbuvables et difficiles à comprendre. Pourquoi est-ce que celui-là, j'arrive pas à le comprendre? Donc il y a un moment, il y a quand même une idée qui me traverse l'esprit, qui est de me dire, je vais sauter l'introduction, je vais aller au premier chapitre. Je vais essayer de voir, est-ce que c'est foutu pour foutu? Est-ce que je vais arriver à lire, à comprendre rien de ce livre? Ou est-ce que quand même je peux réussir à en comprendre quelque chose? Et puis, premier chapitre, explication théorique, d'où vient la honte dans la psyché, de l'enfant, de je sais pas quoi. Il est à fond dans sa théorie psychanalytique. Là, tout d'un coup, tout devient clair. Et je me dis, attends, il y a un truc bizarre. L'introduction, elle est complètement incompréhensible. Mais par contre, le premier chapitre et les chapitres qui suivent, hyper théorique, à distance, il parle de ses patients, nanana, c'est l'histoire des autres et tout. Tout d'un coup, c'est très clair, c'est très compréhensible, c'est même presque assez simple comme écriture. Donc je me dis, ok, il faut que je comprenne ce qu'il y a dans cette introduction. Pourquoi est-ce que c'est si incompréhensible? En fait, dans l'introduction, il racontait que les psychanalystes eux-mêmes n'arrivent pas à parler de la honte parce qu'ils en ont honte, même eux, Et il raconte l'histoire d'un symposium de psychanalyse où il se rappelle que justement cette question a été éludée, que tout le monde a tourné autour du pot en marchant sur des œufs, comme si on voulait pas l'aborder, et que même lui s'était posé la question, que c'est ça qui lui a donné envie d'écrire ce livre, mais qu'en même temps c'était difficile parce que il risquait d'avoir des reproches de la communauté psychanalytique, donc il y avait des enjeux d'appartenance pour lui aussi. En fait, il était en train de raconter son histoire par rapport à la honte, son histoire d'homme, son histoire de psychanalyste, son histoire par rapport à cette communauté symbolique des psychanalystes qui eux-mêmes n'arrivent pas à parler de la honte. Et donc il était en train de parler du fait d'avoir honte, d'avoir honte. Et c'était tellement puissant que ça a réussi à désorganiser son écriture suffisamment pour que cette introduction soit tout bonnement incompréhensible. Alors que dès que ça redevenait un objet de recherche qu'il pouvait mettre à distance théoriquement et la regarder à travers son binocle en bon scientifique qu'il était, tout d'un coup ça devenait beaucoup plus facile d'en parler. Et je me souviens d'avoir vraiment été marquée par cette histoire en me disant « Ok, en fait, même parler du fait qu'on a honte d'avoir honte de parler de la honte, même ça, c'est déjà trop proche de la honte et même ça, on n'y arrive pas. » Donc, je voulais vous donner cet exemple parce que je me dis, moi ça m'a marqué en me disant « Ok, même un grand, même un professionnel de ça, en fait il est quand même impacté par ça. » Donc c'est pour aussi expliquer pourquoi est-ce que nous, dans notre quotidien, c'est quelque chose qui n'est pas simple à dire, c'est un sujet qui n'est pas simple à aborder et c'est normal, c'est sa nature même qui fait ça. Mais en même temps, eh ben, moins on en parle et plus on la ressent. En fait, moins on en parle, plus elle a de pouvoir sur nous. Plus elle prend de place dans notre vie. Plus on lui appartient. Et c'est elle qui décide pour nous. Alors que ce qu'il faudrait au contraire pouvoir faire, c'est justement en parler. Pour justement pouvoir la remettre dans le lien. Et si elle est l'ennemi du lien, le lien est aussi, entre guillemets, son ennemi. La lumière et l'ombre, une histoire sans fin. L'ombre est, l'ennemi de la lumière, mais la lumière est aussi l'ennemi de l'ombre. Alors un dérivé de la honte qu'on connaît bien dans notre quotidien, c'est la pudeur. On n'a pas forcément l'idée de la rattacher à ça, mais la pudeur, voilà, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des limites saines, c'est-à-dire qu'on est dans une certaine culture, et dans cette culture, la pudeur nous dit que ben on va pas se promener nu dans la rue, que on va pas non plus s'exposer dans toutes nos émotions à n'importe qui, etc. Donc il y a des notions de pudeur qui sont là pour aller avec la bienséance, pour permettre le lien entre les êtres humains, pour permettre que tout ça fonctionne bien. Et en même temps, ben donc si on n'en a pas assez, en fait on rentre pas suffisamment dans les codes et on risque d'être exclu ou mis à l'écart par les autres ou de tellement les choquer et les déranger qu'en fait ils vont plus vouloir être en notre présence, voire si on se balade à poil dans la rue on risque de finir au poste de police, donc ça peut avoir des conséquences. Mais en même temps, si on en a trop, eh ben on peut plus s'aimer, on peut plus réussir à s'assumer, on peut plus réussir à juste marcher tranquillement dans la rue sans se poser 10 000 questions, on peut plus être en lien authentique avec les gens parce qu'on va avoir toujours l'impression que c'est trop, que on n'a pas assez de pudeur, donc on n'arrive plus à faire des compliments, on n'arrive plus à en recevoir, on n'arrive plus... Parce que la pudeur nous retient, mais une pudeur qui finit par empêcher le fait d'être en lien.
Parce que vous l'aurez compris, en fait, la honte est quelque chose qui se joue vis-à-vis du regard de l'autre.
Oui.
Et c'est très complexe parce que c'est le regard de l'autre et c'est l'idée que l'on se fait du regard de l'autre.
Oui.
Parce qu'en fait, on peut jamais vraiment savoir ce qu'il y a dans le regard de l'autre. Mais quoique si, on peut aussi le savoir de temps en temps parce qu'il y a des gens qui nous le disent de manière directe. Mais
oui.
Il y a même des gens qui se gênent pas pour ça. Mais c'est surtout l'image que l'on a intériorisée à l'intérieur de nous-mêmes du regard de l'autre.
Oui.
Donc, tout naturellement, la honte nous amène à vouloir nous cacher.
Oui.
Pour ne pas être exposé, on va naturellement avoir tendance à le cacher. Et comme tu le disais très bien, on va avoir envie de se cacher parce qu'en fait, cette émotion, elle est très douloureuse.
Mm.
Tout à l'heure, tu disais que c'est probablement une des émotions qui sont les plus puissantes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle a quelque chose de particulier. Elle a quelque chose en plus que, par exemple, la colère ou la tristesse, qui sont des sensations qui sont, on va dire, désagréables. La honte, elle a ça de particulier qu'elle a vraiment un impact de douleur physique sur nous. Elle a ce pouvoir de nous paralyser, elle a ce pouvoir vraiment de nous clouer au sol. Et du coup, on va spontanément, de manière inconsciente, quasiment automatique et quasiment de manière irrépressible, avoir envie de cacher certaines parties de nous tellement qu'on a envie d'éviter de ressentir cette douleur. Et ça, c'est vraiment très très puissant du fait de vouloir extraire une partie de nous du regard de l'autre. Mais là où c'est paradoxal, c'est que pour se sentir vraiment connecté à quelqu'un, pour se sentir vraiment en lien avec l'autre, ce dont on a le plus besoin, c'est d'être vu. Donc là, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que la honte cherche à cacher une partie de nous, ou nous amener à nous cacher d'une partie de nous, alors que précisément ce dont on a besoin pour être en lien avec l'autre, c'est de pouvoir être vu intégralement, c'est-à-dire de pouvoir être vu tel que nous sommes, dans nos failles, dans nos vulnérabilités, et précisément dans les endroits qu'on pourrait spontanément avoir envie de cacher parce qu'on pourrait en avoir honte. Donc, comment faire pour autoriser l'autre à nous voir, et donc comment faire pour réussir à avoir le courage de se dévoiler? Parce que pour être en lien, il faut être vu. La honte nous pousse à nous cacher. Donc finalement, la honte est précisément ce qui nous empêche le plus d'être en lien.
Oui, alors bien sûr, ça soulève des questions de est-ce que ça veut dire qu'il faut que je m'expose à tout le monde tout le temps, aux quatre vents, et que je montre mon intimité à tout le monde? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un jardin secret? Non, absolument. On peut avoir notre jardin secret ou qu'on garde pour nous. On n'a pas besoin de tout partager tout le temps, y compris dans le couple. On n'a pas d'obligation à se dévoiler. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure avec la pudeur. Le sujet, c'est pas d'aller dans l'extrême inverse, c'est toujours de trouver l'endroit du milieu, mais cet endroit du milieu qui, à la fois, me permet d'avoir mes espaces à moi et mon intimité, et de pouvoir choisir avec qui je la partage, quand, comment, à quel degré, etc., etc. Et en même temps, d'avoir cette capacité à être profondément en lien, pour avoir cette sensation d'être vu, d'être vraiment vu pour qui je suis, d'être vraiment en lien avec l'autre en tant que la personne que je suis. Et du coup, voilà, encore une fois, le sujet, c'est de faire attention à ne pas risquer de suraccident. Si je partage quelque chose dont j'ai honte à quelqu'un et qu'en fait, c'était pas la bonne personne ou c'était pas le bon moment, je risque un suraccident, je peux risquer des représailles, je peux risquer un regard de pitié, qui est probablement le pire à recevoir. Enfin, bon, les représailles, c'est pas top, mais la pitié non plus, quand on vient de partager quelque chose dont on a honte, c'est surtout ce qu'on ne veut pas que notre ami ou notre conjoint, partenaire, ait comme regard sur nous. Parce que ça sous-entend encore une fois de la dévalorisation, ça sous-entend qu'on n'est plus au même niveau, ça sous-entend ô moi, pauvre petite chose que tu regardes avec pitié. Personne n'a envie de sentir ça. Donc, éviter les représailles, éviter la pitié, éviter aussi les conseils déguisés en je te plains, genre ah bon, mais pourquoi t'as fait ça? Ou t'aurais dû? Ou ah ouais, toi tu fais ça, ouais, moi je fais pas ça, ou des choses comme ça qui sont des sortes de reproches en fait. Et toutes ces réactions-là, elles sont dangereuses dans l'absolu, mais elles le sont encore plus quand on est dans notre en droit de honte, parce que justement, elles sont des formes de jugement, de regard de l'autre, et elles viennent renforcer la honte qui nous dit, tu vois, j'avais bien raison de te dire de le cacher, j'avais bien raison de te dire de ne pas montrer ça, puisque l'autre, maintenant, pense moins de ça, puisque ça t'a abaissé dans son estime, dans son opinion, dans l'image qu'il a de toi. Donc, bien sûr, le sujet, c'est certainement à 100% de faire très attention à ce que l'on dévoile, ce que l'on partage, à qui. Et comme dit Brené, si on a une ou deux personnes dans notre vie qu'on peut appeler pour partager les sujets dont on a honte, on est très chanceux. Très chanceux. Si on a ne serait-ce que une occasion de pouvoir partager quelque chose dont on a honte, on est parmi les plus chanceux. Parce qu'en fait, le problème, c'est de ne pas pouvoir le partager du tout. Et ça revient à ce que je disais par rapport aux extrêmes. Bien sûr qu'il ne faut pas dévoiler tout le temps à tout le monde. Par contre, il ne faut surtout pas le garder à l'intérieur de nous. Surtout pas l'enfermer en se disant que cette chose-là, elle pourra jamais être vue, entendue ou comprise par qui que ce soit, qu'il faut jamais qu'elle sorte de moi parce que sinon, qui que ce soit va en penser moins de moi. Donc, ça peut être un ou une amie très précieuse, ça peut être une personne de la famille, ça peut être un thérapeute, c'est aussi à ça que servent les thérapeutes, c'est qu'ils sont neutres, ils sont à l'extérieur, on les côtoie pas dans notre quotidien, donc c'est très bien, de toute façon, il peut pas y avoir de conséquences sur ma vie quotidienne, mais par contre j'ai besoin de le dire à quelqu'un, et j'ai besoin de le dire à quelqu'un qui va pouvoir avoir de l'empathie pour moi, qui va pouvoir me dire, ok, je comprends pourquoi ça fait mal, je vois où est-ce que ça fait mal à l'intérieur de toi, et je suis là à côté de toi. Donc surtout ne pas le garder à l'intérieur, sinon c'est là que ça plante ses racines et que ça vient empoisonner toute notre vie et toute notre personnalité.
Oui, au final, si on garde ça à l'intérieur de nous, au final, c'est ça qui va déterminer ce qu'on va se donner comme droit, en fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pas pouvoir faire, mais malheureusement, souvent d'une manière non consciente. C'est-à-dire qu'en fait, on aimerait bien faire quelque chose ou pas, mais en fait, c'est justement cette sensation de honte intériorisée, cristallisée sur une longue période de temps, qui va nous empêcher d'envisager la possibilité de réussir.
Oui. Faire, mais aussi juste qu'est-ce que je mérite de vivre. Et c'est malheureusement une question qu'on retrouve énormément en amour. C'est est-ce que je mérite d'être aimée? Et ça, c'est quelque chose qui se voit beaucoup, qui est très difficile dans les couples, c'est quand quelqu'un a une estime d'elle-même ou de lui-même tellement bas que cette personne, elle est tellement convaincue de ne pas mériter d'amour, de ne pas valoir d'amour, parce qu'il y a quelque chose en elle qui fait que c'est pas possible, qu'elle le mérite pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, que du coup, l'autre a beau aimer cette personne, c'est comme si elle rejetait cet amour parce que ça ne correspond pas à ce qu'elle croit d'elle. Et donc oui, c'est ce qu'on fait, mais c'est aussi ce qu'on s'autorise à vivre, c'est aussi ce qu'on s'autorise à expérimenter. Ça se joue évidemment, éminemment, dans la parentalité. Est-ce que je suis un parent suffisamment bon? Est-ce que mon enfant m'aime suffisamment? Est-ce que je fais un bon travail? Et cet enjeu-là dans la parentalité, il est tout le temps là. La honte est malheureusement parmi les meilleurs amis, je crois, de tous les parents sur Terre. Parce que ces questions-là, elles nous touchent forcément. Dès que la question, c'est qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux en tant que parent? Qu'est-ce que je vaux en tant que partenaire? Qu'est-ce que je vaux en tant qu'ami? Qu'est-ce que je mérite de vivre? Qu'est-ce que je peux recevoir? Est-ce que je suis à la hauteur? C'est cette question-là. Et c'est ça qui va nous limiter dans ce qu'on s'autorise à vivre, à expérimenter, à rêver, à vouloir, à désirer, à espérer, tout ça.
Dans le prochain épisode, on parlera de comment se construit la honte, dans quoi elle puise sa force obscure, et comment elle peut polluer toute notre vie. Et bien sûr, on vous proposera aussi des pistes pour en sortir, et trouver des manières de sortir du sentiment de honte quand on a plongé dedans.
À la semaine prochaine! Pour nous tous, les conflits sont une plaie, ce que nous essayons d'éviter. Parfois, au prix de ne plus être capable de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de poser des limites saines et de demander ce dont nous avons besoin. Et la relation petit à petit perd son sens. Dans d'autres situations, les conflits deviennent tellement récurrents et douloureux qu'on en devient usé, fatigué, et que la seule solution semble alors être de mettre fin à la relation. Et si ce n'était pas la seule solution ? Et si on pouvait désarmer nos conflits au moment même où ils pointent le bout de leur nez pour éviter l'escalade de violence et de mots blessants? Et si on n'avait pas à en avoir peur, mais au contraire, qu'on pouvait plonger avec confiance dans nos vulnérabilités pour découvrir qui nous sommes? C'est le pari un peu fou que nous vous proposons. Ça vous dit plus de confiance en vous et de paix dans votre quotidien avec cette ou ces personnes qui comptent tant? Allez sur la page internet www.jevaismieux.fr/3c et découvrez gratuitement la méthode des 3C qui va changer votre vie. Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez. Aujourd'hui.
Nous sommes Aimé et Adrien. Et ici, c'est Je vais mieux.